When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On connaissait Olivia Ruiz, chanteuse, la voici écrivaine. Révélée par la Starac en 2001, elle avait triomphé en 2005 avec son album et son tube éponyme « La femme chocolat ». Aujourd'hui, à 40 ans, Olivia Ruiz revient dans l'actualité culturelle avec un premier roman, « La commode au tiroir de couleurs », qui évoque ses origines espagnoles. Olivia Ruiz va-t-elle se révéler romancière ? Code Source raconte aujourd'hui son parcours avec Emmanuel Marolle et Sandrine Bajot du service culture du Parisien. Avant de parler de ses débuts d'écrivain avec Sandrine Bajos, on va raconter avec vous, Emmanuel Marolle, la vie d'Olivia Ruiz, de son vrai nom Olivia Blanc. Elle est née en 1980 à Carcassonne, dans l'Aude. Dans quel milieu ?
Elle grandit dans un milieu assez populaire, on va dire, dans un tout petit village qui s'appelle Marseillette. C'est une commune de 700 habitants. On avait fait un reportage ensemble il y a quelques années et elle me disait « c'est pas difficile, il y a 10% de la population qui fait partie de ma famille ». Ma grand-mère a eu 21 enfants, donc après, quand tu fais le compte, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Et son père est musicien, un musicien de bal, un musicien qui joue dans des grands orchestres, et sa mère est employée de bureau. Après, c'est un environnement familial très, très important pour elle. C'est-à-dire qu'il y a les parents, mais il y a aussi les oncles, les tantes, les cousins, et tout le monde vit un peu ensemble dans un tout petit village comme Marseillette.
Et dans ce petit village, des membres de sa famille tiennent un café. C'est un lieu important pour elle ?
C'est le café clé de toute sa carrière. C'est le café qui déclenche tout pour elle. C'est un café qui s'appelle La Terrasse, qui est tenu par ses oncles et où elle a grandi. C'est des vieux, comme elle dit, qui jouent à la belote. C'est les oncles et tantes qui sont derrière le bar. C'est son père aussi qui sort d'une nuit de concert et qui vient pour donner un coup de main. C'est un peu la maison familiale, quoi, ce café.
Elle est comment quand elle devient ado ?
Elle dit elle-même « j'étais hyper conne ». Son frère dit qu'elle était un peu insupportable, comme les ados peuvent l'être. Et puis elle écoute beaucoup de musique, elle écoute Noir Désir, elle écoute toute la nouvelle scène française. Et elle forme un groupe de rock qui s'appelle Five. Et elle fait quelques concerts avec eux. Là, on est à la fin des années 90, des petits concerts, des fêtes de la musique, des choses comme ça.
En 2001, sa mère lui parle d'un casting pour une école de théâtre, de musique et de danse, une école gratuite.
Alors elle lui parle de quelque chose qui va se lancer à la télévision, qui s'appelle Star Academy. Alors il faut replacer ça dans le contexte de l'époque. Évidemment, 20 ans après, on sait ce que c'est Star Academy, mais à l'époque, on ne sait pas du tout. Certains, dont Olivia, pensent que cette émission de télévision va être une sorte de fame à la française. Fame, à la fin des années 70, c'était une série où on racontait le quotidien d'une école de musique, d'une école de danse, de théâtre, avec évidemment des petites histoires pour chacun des protagonistes, etc. Mais ça a fait l'objet de séries, d'une pièce de théâtre, d'un film, d'Alan Parker. Enfin voilà, c'est quelque chose qui vraiment montrait ce que c'était que les coulisses du métier d'artiste et la façon dont on pouvait devenir artiste. Et la mère d'Olivia lui parle de cette émission en lui disant « ça va être un fame à la française ». Donc c'est assez tentant pour une gamine qui a envie d'être artiste, qui a envie d'être chanteuse et qui se dit ça va peut-être être un coup d'accélérateur. Sauf que la réalité est un petit peu différente. On est en 2001, À l'époque, la télé-réalité, qui est un petit peu partout aujourd'hui, commençait. Quelques mois auparavant, la France avait découvert Love Story, donc avec ces jeunes gens qui étaient enfermés dans un loft filmé 24 heures sur 24. Et finalement, Star Academy, c'était plutôt un Love Story musical qu'un fame à la française.
Amour, haine, amitié, rivalité.
Et elle ne va pas vraiment aimer cette expérience.
Il y a 16 finalistes de mémoire qui sont choisis sur le plateau et qui vont donc rentrer dans ce fameux château enfermé pendant des semaines avec des éliminations chaque semaine. Et dès cette première soirée, elle voit qu'on ne parle pas de musique, mais qu'on parle de son petit ami, qu'on met en avant, etc. Et là, elle se dit, c'est mort, je me suis fait avoir. Mais par contre, je suis là, il y a une opportunité, il y avait un gros contrat discographique à la clé, une grosse avance, 1 million à l'époque. Et elle se dit, bah, je vais tenter ma chance de toute façon, donc je vais faire le job.
Quand vous regardez Star Academy, Emmanuel Marolles, vous remarquez cette candidate qui détonne un peu.
J'étais pas tellement séduit justement par ce concept d'émission où je trouvais qu'on essayait de faire passer des chanteurs de salle de bain pour des futures stars de la variété. Et au milieu des candidats qui faisaient un peu les pitres, qui essayaient de chanter plus ou moins bien, il y avait cette jeune fille avec un t-shirt Tête Raide. Elle avait la pochette de l'album Gratte-Poil des Tête Raide. Qu'est-ce que fait cette nana dans cette émission? Je comprenais pas, parce que les Tête Raide à l'époque, c'était la nouvelle scène française entre rock et chanson. C'était des gens très militants, assez radicaux, très poétiques, enfin avec une exigence artistique qui était mais à mille lieues de la télévision en général. Déjà, c'est des gens qu'on voyait jamais à la télé, et encore plus d'une émission comme celle-ci. Et je me disais, il y a un truc qui va pas là, il y a un truc qui colle pas, ça n'est pas possible que cette fille qui a ce t-shirt-là chante toute la journée des chansons de Lara Fabian et de Natacha Saint-Pierre.
Le 29 décembre 2001, elle est éliminée au stade des demi-finales.
Oui, elle est face à Jennifer, parce que c'est une demi-finale féminine à l'époque. Elle perd face à Jennifer. Et quelque part, c'est sans doute ce qui lui arrivait de mieux dans Star Academy. C'est-à-dire de ne pas avoir gagné cette première édition et de ne pas être obligée, entre guillemets, de faire un album extrêmement formaté parce que grande gagnante et donc ayant moins de latitude pour faire ce qu'elle veut.
En sortant de la Star Academy, Olivia Blanc change de nom.
Oui, Olivia Blanc devient Olivia Ruiz, un clin d'œil à sa famille espagnole et à sa grand-mère espagnole. Après l'émission, il y a une tournée avec les candidats. Il faut savoir que Star Academy, c'était les albums de reprise des candidats, c'était les disques qui se vendaient le plus en France. La première tournée de Star Academy, c'est une tournée qui a duré pendant des semaines et des semaines. Donc on voyait encore une fois ces 16 candidats, inconnus il y a encore 3 ou 4 mois, remplir des salles immenses, faire des reprises. Et donc Olivia, elle était parmi ces candidats. Elle a fait encore une fois le boulot jusqu'au bout en disant « ça sera formateur, on va voir ce qui va se passer après, jouons le jeu. »
Et après cette tournée, elle va essayer de s'enlever l'étiquette Star Academy ?
Après la tournée, en fait, elle va avoir la possibilité de signer un contrat chez Universal, plus précisément sur le label Polydor. Polydor lui propose un album assez formaté, de variété, lié à Star Academy, et elle dit « ben non, j'ai envie de travailler avec d'autres gens. J'ai envie de travailler avec Neri, l'ancien chanteur des VRP, avec Juliette, voilà, qui fait de la chanson aussi exigeante, avec les Tête Raide dont on parlait tout à l'heure. » Et là, le label lui dit « mais tu es bien gentil, mais ça va pas du tout le faire, parce que tous les gens que tu cites, justement, c'est Star Academy, c'est tout ce qu'ils détestent. » Et elle s'est pas démontée. Elle est allée frapper à la porte de tous ces artistes. Elle s'est pris des vents, des moments, justement, parce que certains lui ont dit « mais... vous êtes qui ? Enfin, voilà, on vous a vu à la télé, ça n'a pas de sens, etc. » Et puis elle est revenue. Et puis surtout, il y a quelque chose qui était assez frappant, c'est que tous ces artistes-là se sont rendus compte que ce n'était pas une posture, qu'elle ne venait pas chercher des noms un peu branchés, de faire du name-dropping, comme on dit. Elle connaissait vraiment leurs disques. Elle les avait vus parfois des dizaines de fois en concert, comme c'était le cas pour les Tête Raide. Et donc, à un moment, tous les artistes qui étaient sollicités, ils se sont dit « mais non, en fait, c'est une vraie fan. Elle connaît la chanson, elle connaît nos chansons, donc il y a peut-être un truc à faire avec elle. »
En 2003, c'est la sortie de son premier album « J'aime pas l'amour ».
Oui, premier album qui arrive. Et moi, je me souviens très bien de la sortie de ce disque. Et je me suis dit, J'y ai pas cru, en fait. D'aller chercher des gens un peu branchés comme Prohomme, qui était un jeune mec qui faisait du rock électro, Neri des VRP, qui avait une très bonne image aussi. Enfin, je me disais, c'est, quelque part, c'est trop beau pour être honnête. Et je me souviens très bien de l'attaché de presse de sa maison de disques à l'époque, qui m'avait dit, rencontre cette fille. Elle a quelque chose, je suis sûr qu'elle va te plaire, qu'elle va te séduire. Et effectivement, quelque part, comme les artistes qu'elle avait sollicités, moi, j'ai été assez séduit par cette jeune fille. Et surtout, en discutant musique avec elle, je me suis rendu compte que là, pour le coup, il n'y avait pas de truc bizarre, que quand on parlait de Noir Désir avec elle, elle connaissait. Quand on parlait des Têtes Raides, quand on parlait de Juliette, qui étaient moi des artistes que j'aimais énormément, je voyais très bien qu'elle connaissait, quoi, que c'était pas qu'elle avait pas appris sa leçon avant de venir.
En 2005, elle rencontre Mathias Malzieu, le leader du groupe Dionysos.
Oui, Mathias Malzieu de Dionysos, c'est une sorte de pile électrique, d'artiste totalement explosif, qui fait des concerts incroyables. Il fait 1m65 à tout casser, il est capable de se jeter dans une foule de 50 000 personnes et de nager au milieu des gens. Il retourne n'importe quelle salle de spectacle avec son groupe depuis le début. Et en même temps, il a un univers extrêmement poétique, féerique. C'est un fan de Roald Dahl, de Tim Burton. Voilà, il commence à écrire des bouquins et ça va être un coup de foudre artistique et un coup de foudre personnel, puisque va commencer entre eux une relation qui va durer plusieurs années.
La Femme Chocolat, son deuxième album, sort fin 2005 et c'est un succès critique.
Très très bonne critique, parce que album plus abouti, plus riche, moins basique, moins brut que le premier. Et au milieu de tout ça, il y a une chanson qui s'appelle « Je traîne des pieds », où effectivement elle raconte ses souvenirs du café familial à Marseillette. C'est comme un petit court-métrage, en fait. On la voit gamine en train d'observer les gens qui jouent aux cartes, les gens qui grignotent le midi, les autres qui vont, qui viennent, la famille, les gens qui parlent fort, etc. C'est une petite bulle à la fois nostalgique, mélancolique et très très légère.
Les pensionnaires, les habitués, les gens de passage sur tout l'été, joyeux bordel dans mon café.
Au fil des mois, cette chanson va commencer à être diffusée à la radio et va séduire le grand public. Mais là, à partir de ce moment-là, ça n'a plus rien à voir avec le succès d'estime qu'il y avait eu pour le premier album. Ça va être un succès énorme, ça va être l'un des succès de l'année 2006.
Et La Femme Chocolat est aussi un tube.
Et La Femme Chocolat, c'est aussi le deuxième succès de cet album, imaginé avec Mathias Malzieu. Et là, on est dans l'univers vraiment de Mathias. Plein d'images un peu métaphoriques. Cette femme qu'il imagine, dont il est amoureux et qu'il a envie de dévorer. Ça, c'est totalement l'univers de Dionysos et de Mathias Malzieu en tant qu'auteur.
Dans la foulée de La Femme Chocolat, Olivia Ruiz reçoit deux victoires de la musique, artiste féminine et spectacle de l'année. À l'été 2006, La Femme Chocolat se retrouve numéro 1 des ventes.
Oui, c'est vraiment un carton monumental. Et puis c'est un succès idéal, c'est-à-dire que c'est un album artistiquement remarquable. Vraiment, c'est un très très grand disque, c'est l'un des meilleurs disques de l'année. Et en même temps, c'est un disque qui arrive à toucher le très grand public. Mais ça veut dire plus d'un million d'exemplaires vendus, ce qui est colossal à l'époque. Et tout le monde la veut, tout le monde l'écoute, tout le monde en parle. Alors qu'encore une fois, il y a des gens sur cet album, Mathias Malzieu, c'est pas toujours de la musique facile. Il y a un duo avec Christian Olivier, le chanteur des Têtes Raides. Voilà, on n'est pas dans un disque a priori très très évident. Et pourtant, c'est un succès énorme. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, pour avoir écrit, fait des reportages avec elle, etc., je me rendais compte qu'il y a des gens qui la découvraient et qui étaient totalement emballés par ce disque et qui n'avaient pas du tout en tête le fait qu'elle avait fait Star Academy.
Elle multiplie les dates, les festivals, elle se produit dans des salles prestigieuses. Elle est comment sur scène, Olivia Ruiz ?
Ben, elle apprend. Elle se retrouve en quelques mois sur la grande scène des Vieilles Charrues devant 80 000 personnes, quoi. Donc ça fait un petit peu bizarre. Il faut réussir à maîtriser l'exercice. Au fil du temps, ça a été de mieux en mieux, quoi. Ça a été une forme d'apprentissage aussi avec ses propres chansons. Là, il fallait défendre ses chansons devant un très très large public.
Comment est-ce qu'elle vit ce succès ?
Elle le vit assez bien, ce succès, parce qu'elle a toujours eu en tête d'où elle venait et qui elle était. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas perdue dans ce succès. Ça ne l'a pas grisée, ça ne lui est pas monté à la tête. Parfois, c'est compliqué, parce que forcément, c'est une forme de tourbillon, un moment d'avoir un petit succès d'estime, et puis d'un seul coup, voir que tout le monde vous aime, voir que toutes les chansons sont diffusées en permanence à la radio, jouer devant des dizaines de milliers de personnes. Ça peut être troublant, mais en même temps, elle avait toujours besoin de retourner dans le sud régulièrement, à Marseille, dans ce petit village où les gens l'arrêtent dans la rue. Quand on avait fait un reportage avec elle à l'époque, c'était ça, quoi. Il y avait, je me rappelle qu'il y avait une voiture qui passait, c'était la coiffeuse du village et qui s'était arrêtée tout de suite. « Ah, Olivia, comment ça va ?» Et la coiffeuse qui vous disait tout de suite « Ah non, mais Olivia, elle n'a pas changé. Hein. On la voit toutes les 5 minutes à la télé, mais c'est toujours la même. » Et c'était, encore une fois, c'était pas un cliché, c'était vraiment la réalité.
Entre 2006 et 2011, la collaboration avec Mathias Malzieu s'intensifie.
Oui, alors il y a la vie à deux déjà, et puis elle devient une sorte de muse pour lui. Mathias, qui commence à écrire des bouquins, prépare un très très gros projet qui s'appelle La mécanique du cœur, qui est une sorte de livre un peu à la Tim Burton, avec plein de personnages étranges, un jeune homme qui a une horloge à la place du cœur, d'où le titre, et donc il faut pas qu'il ait trop d'émotions, parce que sinon son horloge risque d'exploser, donc il faut qu'il soit amoureux, mais pas trop, et il est amoureux d'une petite Lolita, etc., qui forcément a été inspirée par Olivia, et c'est d'abord un livre, puis un disque avec plein de participants différents, de Jean Rochefort à Alain Bachung, en passant par Rossi de Palma et Eric Cantona, et Olivia, évidemment, où chacun jouait et chantait un personnage. Et puis c'est devenu un concert, il y a eu un très très grand concert au Zénith avec quasiment tous les intervenants, et aussi un film d'animation absolument sublime, où la plupart des artistes qui chantaient sur le disque ont fait leur propre voix, dont Olivia. C'était une forme de célébration, quelque part, de cette histoire d'amour et de cette collaboration qui était née à travers La Femme Chocolat.
Tais-toi mon cœur,
je ne te reconnais pas.
Oh, tais-toi mon cœur,
je ne te reconnais pas.
Oh, tais-toi mon cœur,
je ne te reconnais pas.
Pendant cette période, elle va sortir son troisième album, Miss Météor, écrit avec Mathias Malzieu. Mais à l'été 2011, quand vous rencontrez à nouveau Olivia Ruiz, Emmanuel Marolles, elle ne va pas très bien et elle vous le dit.
Oui, on se rencontre aux Vieilles Charrues. Où elle fait quelques concerts l'été, comme ça, sur des grandes scènes de festival. Elle a rien à vendre. Il y a pas, l'album est déjà sorti depuis un petit moment. Et on a du mal à se retrouver dans le festival pour se poser, pour faire une interview. Et on s'était pas vu depuis longtemps. Et j'ai senti tout de suite qu'elle était à la fois qu'elle était contente d'être là, mais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Il y avait quelque chose de mélancolique où on sentait que ça allait pas bien. Je lui ai pas posé la question directement, mais c'est elle-même qui, dans l'interview, m'a dit bah, j'ai un peu passé une année de merde, quoi. Je crois qu'elle emploie ce terme-là. Elle avait perdu son premier amour de jeunesse, son premier amour d'adolescence. Elle avait perdu quelqu'un de très proche qui était un peu son deuxième papa, qui était un grand ami de son père. Voilà. Et puis, elle ne le dit pas à ce moment-là, mais elle me dit quand même, je prépare mon nouvel album. Et je lui dis, bah, tu vas le faire avec Mathias. Et elle me dit, non, Mathias, il a d'autres choses à faire. Il prépare un nouveau disque avec Dionysos, il prépare un bouquin, etc. Et en fait, je pense que déjà, là, l'histoire entre eux était sur le point de se terminer ou était peut-être déjà terminée. Elle ne l'a pas dit à ce moment-là, mais c'était le début de la fin.
En 2011, elle tourne dans un premier film en tant qu'actrice. Un jour, mon père viendra, mais ce sera un flop. Fin 2012, elle sort Le Calme et la Tempête, son album inspiré de ses deux années difficiles.
Comme on disait juste avant, elle a traversé des moments difficiles, elle a perdu des êtres proches, elle s'est séparée de Mathias Malzieu. Après, elle en parle assez librement en disant bah voilà, c'est une histoire qui s'arrête, c'est pas non plus la fin du monde, on n'est pas mort, on reste en bon terme, et pour le coup, ils sont toujours en bon terme aujourd'hui. Voilà, c'est une page qui se tourne pour elle, et puis aussi, c'est un moment où peut-être elle commence à avoir envie d'autre chose, elle se dit peut-être que la popularité, elle l'a vécue, mais qu'elle cherche aussi à s'évader un peu. Elle a passé un long moment à Cuba, par exemple, au moment de l'enregistrement de ce disque. Et elle dit que c'était bien de se retrouver anonyme, de se retrouver avec des gens qui, justement, parfois ont des galères pour au quotidien, etc. Enfin, voilà, le retour à la vraie vie, c'est toujours quelque chose, le retour aux sources, le retour à des choses normales, c'est toujours quelque chose d'extrêmement important pour elle, quoi.
En 2013, elle fait la rencontre du chorégraphe Jean-Claude Galota, avec qui elle va faire plusieurs spectacles.
C'est un peu le déclic de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle va faire des spectacles qui mêlent le théâtre, la danse, la chanson. On le voit. Elle va pouvoir parler aussi de choses plus personnelles. Elle en parlait dans les chansons, mais il fallait parfois un peu lire entre les lignes. Là, elle va construire des spectacles où elle va pouvoir chanter en espagnol, où elle va pouvoir raconter un petit peu l'histoire de sa famille. Et on sent qu'elle a sans doute envie d'évoluer et de tenter d'autres choses. Elle est tout à fait consciente que les 1 million d'exemplaires qu'elle a vendu de la femme chocolat 10 ans auparavant ou presque, ça se reproduira sans doute pas, et c'est pas grave tant qu'on peut faire des choses, tant qu'on peut continuer à évoluer, tant qu'on peut continuer à s'épanouir dans différentes disciplines artistiques.
Fin 2016, son nouvel album À nos corps aimants est beaucoup plus lumineux.
Le disque est beaucoup plus lumineux parce que sa vie est plus lumineuse aussi. Elle a rencontré un nouveau compagnon qui s'appelle Nicolas Préchet, qui est quelqu'un un peu comme elle, en fait, qui est quelqu'un d'assez normal. Il est programmateur de festivals, il s'occupe notamment du Fnac Live, il a travaillé sur des émissions de télé, le Cercle de Minuit par exemple, et voilà, ils s'installent ensemble et ils ont un fils, Nino, qui est né fin 2015. C'est une vie qui lui correspond bien, c'est-à-dire, et Nicolas, il est un peu comme ça aussi, c'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent très très bien le milieu de la musique, le milieu du spectacle, mais qui ont beaucoup de recul par rapport à ça.
Sandrine Bajos, vous couvrez notamment l'actualité littéraire au Parisien. Cette année, en 2020, Olivia Ruiz revient dans l'actualité avec un premier roman qui sort le 3 juin chez Lattès, La commode au tiroir de couleur. De quoi ça parle d'abord ?
C'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune maman, qui va hériter au décès de sa grand-mère, dont elle était très proche, d'une commode avec des tiroirs de couleur. Et dans chaque tiroir, il y a une histoire. Ça peut être une médaille de baptême, ça peut être un foulard. C'est des objets qui vont lui permettre de comprendre d'où elle vient, qui elle est, d'où vient sa famille. Puisque Olivia, depuis qu'elle est née, avec son frère, se pose des questions de savoir d'où je viens. Il faut savoir que ses grands-parents ont quitté dans les années 30-40 l'Espagne sous Franco. Et ils n'en ont plus jamais parlé. Alors est-ce que c'était de la pudeur, du tabou ? Ça a été vraiment un sujet qu'on n'abordait pas chez les Ruiz.
Olivia a posé des questions sur ses origines ?
Elle en a posé énormément. Elle n'a jamais eu de réponse.
Est-ce que c'est une autobiographie ?
Alors, pas du tout. C'est la question que je lui ai posée parce que c'est tellement crédible, tellement vrai, tellement bien documenté. Ça l'a fait rire. Elle m'a dit non, tout est faux, mais tout est vrai également. Donc, l'histoire de Rita, son abuela, moi, je pensais que c'était sa vraie grand-mère. Et en fait, elle me dit, Rita, c'est toutes les femmes que j'ai aimées, mes tantes, ma mère, c'est peut-être un peu moi aussi. Et c'est toutes les femmes que je rêverais de connaître.
Ça a été compliqué pour elle d'écrire ce livre ?
Ça a été assez compliqué parce qu'elle était toujours en train de... Elle me l'a dit, mais qui suis-je moi pour écrire un roman ? Donc elle écrivait, puis elle repartait, et puis elle trouvait que c'était pas bien. Son éditrice a dû sans cesse lui redonner confiance en elle en disant « c'est moi qui juge ton travail. Moi je sais que tu as une plume, je sais que tu es en train d'écrire un très très grand roman, vas-y. »
C'est bien écrit ?
C'est très très bien écrit, c'est un vrai coup de cœur, c'est un livre qui se dévore, c'est un livre qui est bouleversant, ça remue les tripes, hein. On pleure, on rigole, c'est une pépite, c'est très grand public, je pense que ça va être un des grands succès de l'été.
Merci à Sandrine Bajos et Emmanuel Marolle. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles ou en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Mathias Ardoy, production Stéphane Geneste, réalisation Julien Moncouquiole.
We'll be right back. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.